Radio Kapi. Oh, Kapi.
Il est 18h à Kinshasa, 19h à Goma, au Nord Kivu. Bienvenue à l'écoute de ce journal dont voici les titres. Le président Félix Tshisekedi salue le retour en force de la France en RDC pour une coopération bilatérale gagnant-gagnant. Déclaration faite ce samedi à Kinshasa après sa rencontre avec le président français et des discussions à huis clos entre les deux chefs d'État. Au Nord Kivu, l'armée burundaise devrait commencer le déploiement de ses troupes dans le territoire de Masisi à partir de ce samedi. Un déploiement qui s'est fait dans le cadre de la mise en œuvre des décisions du sommet des chefs d'État tenu le 17 février dernier à Addis Abeba. L'invité de ce journal est le consultant de l'Institut international républicain de la province de la Tshopo. Le professeur Germain Kouna Maba Mambuku parle de la table ronde organisée récemment à Kisangani sur les discours de haine. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Rencontre cet avant-midi à Kinshasa entre les présidents français et congolais au Palais de la Nation. Après les discussions à huis clos, les deux chefs d'État se sont adressés à la presse nationale et internationale. Le président Félix Tshisekedi a salué le retour en force de la France en RDC pour une coopération bilatérale gagnant-gagnant. Il a invité la France à abandonner les discours paternalistes quand il s'agit des questions concernant la politique intérieure de la RDC. S'agissant du processus électoral, le président craint que l'insécurité dans l'est de la RDC puisse perturber les élections prévu en décembre prochain. On écoute Félix Tshisekedi.
Nous avons désigné le président João Lourenço de l'Angola ainsi que le facilitateur désigné par la communauté d'Afrique de l'Est, l'ancien président kenyan, Uhuru Kenyatta. Nous leur donc avons confié la mission d'approcher les terroristes du M23 et le processus est en cours. Je n'en dirai pas plus. De mon côté, j'ai reçu les émissaires du président João Lourenço. J'ai eu l'occasion d'en parler au président Macron. Je demande à voir, parce que nous ne sommes pas au premier processus prêt. Les cessez-le-feu, nous les avons déjà décidés depuis le processus de Nairobi. Ensuite, il y a eu celui de Luanda, où il y a eu encore un cessez-le-feu plus un calendrier qui commençait le 25. Rien de tout cela n'a été fait. Nous demandons à voir. Nous donnons la chance à la paix, car comme je vous l'ai dit, ma présidence, elle est destinée plutôt à favoriser la cordiale entente entre les peuples des pays voisins.
Le président français Emmanuel Macron a quant à lui réaffirmé l'engagement de la France à accompagner la RDC dans la lutte contre l'insécurité dans l'Est. Ni pillage, ni balkanisation, ni guerre ne sera plus tolérée en RDC, a-t-il dit. Les auteurs et violeurs du pacte de cessez-le-feu seront visés par les sanctions. Le président français estime que la persistance est principalement de la responsabilité de la RDC qui n'a pas su imposer l'autorité de l'État dans l'Est du pays. Emmanuel Macron.
Oui, pour une commission d'historiens, pour faire ce travail, s'il semble utile au président, et donner les faits. Ensuite, soyons clairs, quelle est la situation depuis 1994 ? Plusieurs pays de la sous-région sont rentrés dans votre pays et plusieurs groupes rebelles y ont prospéré. Captant d'ailleurs beaucoup de richesses minières économiques qui devraient revenir à votre pays. Et depuis 1994, c'est pas la faute de la France, pardon de le dire dans des termes aussi crus, vous n'avez pas été capable de restaurer la souveraineté, ni militaire, ni sécuritaire, ni administrative de votre pays. C'est aussi une réalité. Faut pas chercher des coupables à l'extérieur de cette affaire. Et donc, on en est dans cette situation qui a conduit à des drames absolus, à cette deuxième guerre, à des millions de morts, qu'on ne doit pas oublier, à la nécessité aussi, ce qui est une responsabilité qui doit se faire ici, c'est pas la France ou d'autres de le faire, de mettre en place une vraie justice, une justice transitionnelle, qui est la clé pour que celles et ceux qui parfois ont tué soient jugés. Et parfois, ils évoluent encore, ils sont là, ils sont encore avec des responsabilités. Comment voulez-vous qu'il y ait une paix durable et de la confiance dans un pays quand la justice n'est pas passée ? N'accusez pas la France pour quelque chose qui dépend de vous, là.
Notez que ces propos ont été recueillis par Michel Kifindangoy. Fin de la mission de deux jours de Bintou Keïta à Bukavu, dans la province du Sud Kivu. Cette visite a permis de confirmer l'excellente coopération et collaboration entre la MONUSCO et les autorités provinciales. Affirmation de la chef de la MONUSCO après une rencontre ce samedi avec Marc Malago, gouverneur ad intérim du Sud Kivu. L'autorité provinciale a souligné l'importance de cette visite dans un contexte marqué par les discussions sur le plan de transition qui doit conduire au départ graduel et responsable de la MONUSCO. Marc Malago est au micro de Cynthia Bachizi Nabizana.
Nous sommes dans un processus de transition de la MONUSCO. Qui dit transition, qui dit la fin de ce mandat arrive à point nommé, alors avant qu'il parte, qu'est-ce qui doit se passer? Et c'est depuis pratiquement 2 mois que nous travaillons. Alors Madame Bintouké était passée voir les avancées et voir comment atterrir en douceur et que les années passées ici en RDC nous apportent la paix en plus. Pour le mandat de la MONUSCO, au nom du gouvernement congolais, nous pouvons dire que ça avance normalement. C'est pour ça qu'ils sont encore là. Le mandat a été renouvelé à plusieurs reprises. Donc nous sommes en train de réfléchir sur autre chose. C'est le landing tel que vous le dites en anglais, l'atterrissage en douceur pour que réellement les années passées servent pour la paix à l'intérieur et aux alentours de nos régions meurtries pendant plusieurs années.
Au Nord Kivu, la direction du M23 s'est engagée hier vendredi devant le président en exercice de la Conférence internationale pour la région des Grands Lacs à cesser les hostilités dans l'est de la RDC. Cela dès le 7 mars à partir de 12h. Ceci a été révélé par la présidence angolaise, cité par certains médias. Selon ses sources, une délégation de la direction du M23 a séjourné depuis mardi 28 février à Luanda sur invitation du président João Lourenço. Selon nos sources, le sommet d'Addis Abeba du 7 février 2023 a mandaté l'Angola pour entamer les contacts directs avec le M23 et ce, dans le but de parvenir à un accord sur le cessez-le-feu et le cantonnement puis la démobilisation des forces du M23 qui ont déjà échoué à plusieurs reprises. Nord Kivu encore, l'armée burundaise devrait commencer le déploiement de ses troupes dans le territoire de Masisi à partir de ce samedi. L'information a été révélée dans un communiqué du secrétaire général de la Communauté des États d'Afrique de l'Est, publié hier vendredi. Ce déploiement se fait dans le cadre de la mise en œuvre des décisions du sommet des chefs d'État tenu le 17 février dernier à Addis Abeba. Par ailleurs, l'effectif militaire de ces contingents burundais n'est pas encore relevé. Bernard Nyangi pour le détail.
Dans son communiqué, le docteur Peter Matuku, secrétaire général de l'EAC, précise que le Burundi, à travers son chef de force et de défense, a confirmé que c'est ce samedi 4 mars que le déploiement de ses troupes débutera au sein des forces de l'EAC en RDC. Cela en lien avec la feuille de route fixée par le chef de force et de défense le 9 février 2023 et entérinée par les chefs d'État de l'EAC lors de leur sommet du 17 février à Addis Abeba en Éthiopie. Nos sources au sein de l'EACRF à Goma disent attendre l'arrivée de ces militaires burundais qui devraient se déployer directement sur l'axe Sakikiroliro et Kichanga, tel que recommandé par les chefs des forces de défense de l'EAC. Rappelons que le délai du début des retraits du M23 des zones occupées en territoire de Masisi, Rutshuru et Nyiragongo, constitution et déploiement des troupes de la force régionale a été fixé le 28 février 2023. Près de 5 jours après, rien n'a encore été mis sur pied. Lors d'une réunion du mécanisme conjoint de coordination tenue jeudi à Bujumbura, le mécanisme d'exécution chargé des suivis et la mise en œuvre du cessez-le-feu a été mise en place.
Et puis, des tirs nourris ont été entendus hier vendredi à la frontière rwando-congolaise au niveau de la zone neutre entre les villes de Gisenyi au Rwanda et de Goma en RDC. Des sources concordantes parlent des morts et des blessés dans les deux camps. Il s'agit d'un nouvel incident militaire qui s'ajoute à plusieurs autres enregistrés l'année dernière impliquant les deux armées. Des détails avec Denise Lukesso.
Selon des sources sécuritaires de la ville, il s'agit d'un échange de tirs entre les militaires rwandais et les FRDC dans la zone neutre entre les villes de Gisenyi et de Goma. Les militaires congolais commis à la surveillance de la frontière à ce niveau ont essuyé des tirs en provenance des militaires rwandais des RDF, selon les mêmes sources. Ces sources confirment qu'un militaire congolais de l'unité de la garde républicaine au grade d'adjudant a été tué par les militaires rwandais des RDF. En renfort, les militaires congolais arrivés sur les lieux ont riposté. Dans ces brefs échange de tirs, 2 militaires rwandais auraient été tués également. Ces sources parlent aussi des blessés enregistrés dans les deux camps. Les officiels congolais déclarent avoir saisi la CIRGL pour des enquêtes afin d'ordonner la levée du corps de Didier Assamba Nzenze qui gisait au sol sur les lieux de l'incident jusqu'à ce samedi matin. Ce nouvel incident militaire s'ajoute à de nombreux incidents similaires où les soldats de deux pays s'accusent mutuellement des violations des territoires. Pour rappel, en 2022, un incident similaire s'était produit, toujours entre les deux villes, impliquant des policiers rwandais et des soldats congolais. 2 policiers rwandais et 1 militaire FRDC avaient été tués. Goma, Denise Lukesso, Radio Kapi.
Au mois de mars, en Ituri, les femmes disent non aux actes de violence ainsi qu'aux exactions meurtrières des groupes armés dont elles sont victimes depuis près de 5 ans dans cette province. Et l'ont fait savoir ce samedi lors d'un match de football dénommé pour la cohésion sociale. activité sportive organisée par la section de l'information publique de la MONUSCO à Bounia. À cette occasion, le vice-gouverneur de la province de l'Ituri a appelé les groupes armés qui détiennent encore les armes à écouter les cris des cœurs des femmes en déposant les armes. Les points avec Ezekiel Mouzalia.
Solennel et grave a été le ton des femmes de l'Ituri ce samedi au stade Epoville de Bounia où elles ont lancé différents messages de paix et de cohabitation pacifique entre les communautés de la province. Elisabeth Bouvet, coordonnatrice du collectif des femmes de l'Ituri.
Nous avons présenté l'amertume, nous sommes traumatisés par rapport à ce qui se passe, ça ne se termine pas, toujours la recrudescence des hostilités et puis quand il y a peu d'accalmie, ça rebondit.
En français, Swahili et en Lingala, elles ont entre autres exprimé leur ras-le-bol face au conflit dont elles sont les principales victimes. À tour de rôle, elles ont notamment dit non à la guerre, stop aux destructions des hôpitaux, écoles ou marchés et ont imploré les groupes armés à avoir pitié des femmes. Et c'est ensuite dans une ambiance joyeuse que ces femmes des différentes communautés issues des 5 territoires de la province ont livré un match pour la paix et la cohésion sociale devant le vice-gouverneur militaire. L'occasion pour l'autorité provinciale de mettre en garde les groupes armés qui endeuillent la province, général Benjamin Alonga Boni.
Tous ces gens-là qui s'évertuent à verser le sang des innocents, à tuer les femmes et enfants et les personnes vulnérables de troisième âge, vous ne resterez jamais impunis.
Bounia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
Le sénateur Matata Mponyo, qui s'est fait enrôler la semaine dernière au Maniema, dénonce ce qu'il appelle un processus chaotique. Parlant des opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs, il cite plusieurs problèmes et autres irrégularités qui ne devraient pas permettre d'atteindre les prévisions de la CENI. Il invite la centrale électorale à revisiter ces processus. Matata Mponyo a été joint par Noéla Luzitu.
Globalement, je peux dire que le processus est chaotique. Vous avez d'une part des machines qui sont insuffisantes par rapport au nombre 2018. Vous avez des machines qui tombent perpétuellement en panne. La province du Maniema, vous savez, c'est la plus vaste de toutes les 3 provinces du Grand Kivu, avec une partie de la forêt et des routes quasiment impraticables. Comment voulez-vous quelqu'un qui est dans la forêt de Kabambaré puisse attendre 3 semaines pour une machine qui est rentrée à Kindu à près de 400 km pour être réparée? Vous avez des problèmes de durée d'enregistrement et on est obligé de donner 1000 francs congolais pour être enregistré. C'est inimaginable, c'est un enfer. À 2 semaines, on était à 6% de ceux qui doivent se faire enrôler par rapport au potentiel tel qu'estimé par la CENI. Si on fait un calcul ça, après 2 semaines de 6%, mais dans un mois, on sera à 12%. Même si on allonge d'un mois, on ne sera pas enrôlé tous les électeurs. Donc c'est un processus chaotique. Le processus mérite d'être révisité totalement pour recrédibiliser. Sinon, c'est un processus qui fait le lit d'un chaos post-électoral.
En bref, Tsakala Nkila Ntambu est le nouveau ministre provincial de Kinshasa en charge de l'intérieur, sécurité, justice et affaires coutumières. Il a été nommé hier vendredi par le gouverneur de Kinshasa, Gentil Ngobila, une nomination qui intervient après la démission, la même date, de Tenge Lito qui dirigeait ce ministère.
Actualité internationale.
Au moins 4 personnes sont mortes et près de 41 000 ont été évacuées en Malaisie à cause des inondations provoquées par des pluies diluviennes dans plusieurs états du pays, ont annoncé ce samedi les autorités relate l'agence France Presse. L'armée ukrainienne affirme avoir repoussé plusieurs assauts autour de Bakhmut tout en entretenant le flou sur la situation sur place. Impossible à confirmer pour le moment que Bakhmut est encerclé comme a pu l'affirmer le chef du groupe Wagner. Les Ukrainiens reculent et ont pris soin de faire sauter 2 ponts à proximité pour couvrir leurs arrières et ralentir l'avancée du groupe Wagner.
L'invité.
L'invité de ce journal est le consultant de l'Institut international républicain IRI dans la province de la Tchopo. Le professeur Germain Kouna Maba Mambuku parle de la table ronde organisée récemment à Kisangani sur les discours de haine. Il s'entretient ici avec Jacques Moukonkolé.
Professeur Germain Kanou, bonjour.
Bonjour, merci.
Qu'est-ce qui a motivé l'organisation de cette table ronde?
Bon, il y a eu des ateliers au niveau national sur la stratégie de lutte contre la haine. les discours de haine en RDC, mais il y a aussi un rapport des Nations Unies qui fait état de l'augmentation de cas de discours de haine. Et donc, l'URI, avec le soutien de l'USAID, a estimé nécessaire en cette période de commencer la sensibilisation. Nous l'avons fait à Kinshasa, nous l'avons fait à Lubumbashi et maintenant nous le faisons à Kisangani avec beaucoup de possibilités de le faire ailleurs.
Pour quel objectif ?
Lutter justement contre l'essor des discours de haine, la violence, surtout en cette période électorale.
C'est quoi le discours de haine ?
En fait, pour dire simple, un discours de haine, c'est une parole, c'est un geste, c'est une attitude, c'est un comportement, c'est une image, c'est une caricature, c'est un fait qui porte atteinte à la dignité de l'autre. Et aussi, cet ensemble réuni qui pousse à humilier quelqu'un, à l'offenser, à le dénigrer. Bref, c'est cet ensemble de mots, de gestes qui constituent des paroles, des gestes qui peuvent aller à l'encontre de la dignité, comme j'ai dit, mais aussi pousser à la violence, aux troubles et à tout fait qui n'est pas normal pour une bonne cohésion sociale.
Comment se caractérise ce discours ?
Bon, ces discours sont caractérisés par la tendance d'animaliser quelqu'un, mais aussi en dehors d'animalisation, des fausses informations, de clichés stéréotypés, mais aussi des paroles qu'on distille sans savoir que ça va choquer quelqu'un.
Y a-t-il des facteurs qui favorisent l'émergence de ces discours ?
Oui, nous avons d'abord l'aspect socio-anthropologique. Donc, il y a en nous cet instinct qui nous permet d'être contents lorsqu'on critique, on dénigre quelqu'un. Il y a aussi les conflits inter- et intra-ethniques. Il y a aussi la lutte pour le positionnement politique. Et enfin, il y a l'essor des réseaux sociaux.
Et nous trouvons actuellement, pendant la période préélectorale, très prochainement la période électorale, est-ce que ces discours peuvent avoir des conséquences ?
Naturellement, premièrement, dans cette période des préélectorales, et il y aura la période électorale et post-électorale, première chose, disais-je, lorsqu'il y a ces discours, ça porte atteinte à la dignité de l'autre, mais aussi ça stigmatise des communautés. Et ça peut produire des troubles interethniques. Mais au-delà de ça, ces problèmes ont comme conséquence de perturber la paix sociale. Et donc nous allons nous retrouver dans une situation où il y aura des conflits, il y aura des troubles, il y aura la violence. Et il y aura aussi sur le plan psychologique un sentiment de rejet de plusieurs personnes.
Alors que faire pour lutter, pour combattre ces discours de haine ?
La première dimension, c'est qu'il faut qu'on puisse légiférer parce que notre législation relative est faible. Donc, c'est le premier élément. On doit légiférer. Deuxièmement, nous devons sensibiliser toutes les couches sociales, que ce soit les leaders politiques, les leaders de la société civile, les leaders religieux, les jeunes. Bref, nous devons sensibiliser. Et troisièmement, et c'est très important, ce genre de messages à travers des émissions, à travers des boîtes à images, à travers des enseignements, doivent être vulgarisés pour que tout le monde prenne conscience. Parce qu'en réalité, il y a deux types de gens qui prononcent des discours de haine, ceux-là qui ignorent et ceux-là qui le font de manière consciente. Donc les deux catégories de gens doivent être suffisamment sensibilisés pour qu'ensemble, nous puissions dire halte au discours de haine dans notre pays.
Professeur Germain
Kouna, merci.
C'était l'invité de ce journal, le consultant de l'Institut international républicain IRI dans la province de la Tchopo, le professeur Germain Kouna Maba Mambuku s'entretenait à Kisangani avec Jacques Moukonkolé. C'est la fin de ce journal. Merci de continuer à les réécouter sur toutes les plateformes digitales des Radio Capi.